La masculinité paye pour les actions d'une minorité d'hommes.
J'ai eu la chance de travailler avec Jean-Paul Gaultier, qui est un être extraordinaire de qui j'ai appris beaucoup.
Le plus important pour moi, c'est l'amour de la langue et de notre langue.
C'est éphémère aussi, le succès, j'ai l'impression. En plus, mon but, c'est de durer.
Sans fil.
Et je suis en compagnie du docteur Serge Marquis, médecin spécialiste en santé communautaire, auteur de plusieurs livres, dont le fameux Pensouillard, le hamster, petit personnage qui nous trotte dans la tête et qui est à la hauteur de notre niveau de stress finalement. Merci d'être là, docteur Marquis.
Isabelle, merci de m'accueillir chez vous. Je me sens très, très touchée.
J'aime beaucoup vous avoir à l'émission. Et là, je me suis dit, mon Dieu, dans Sans filtre, on va en apprendre un peu plus pour ce médecin hors norme. Vous êtes originaire de Québec. Je vous disais avant la pause, on connaît peu de choses de vous, Serge.
Oui, oui.
Vous parlez très peu de vous. Même dans votre livre, je l'ai relu hier pour les besoins de la cause. Puis je me disais, à part avoir été chez les moines tibétains, puis nous parler un peu de ça, vous parlez très peu de vous.
Oui, oui, c'est vrai que je
parle
peu de
moi. Alors, on remédie à ça aujourd'hui.
Je trouve qu'il y a tellement de choses intéressantes à découvrir en ce monde. Non, c'est vrai, c'est vrai. Puis il y a des questions importantes qu'on a traitées, dont j'aime parler. Alors, parlez-moi, c'est pas une chose que je fais beaucoup, effectivement.
Même si l'œuvre littéraire que vous produisez touche l'ego.
Oui, tout à fait. Puis bon, justement, j'essaie de quelque part de mettre en application ce dont je parle, c'est-à-dire d'apaiser mon propre ego. J'ai lu une petite phrase il y a pas longtemps qui m'a, puis je pense qu'elle est bien connue, mais enfin, je vais la reprendre quand même. Quelqu'un disait, je sais même plus qui là, la clé du succès là, la clé du bonheur, pardon, c'est pas le succès. C'est intéressant. Il disait la clé du succès, c'est le bonheur. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Autrement dit, essayez de faire ce que t'aimes dans la vie. Essaye d'aimer ce que tu fais, puis tu vas peut-être en avoir du succès. Mais essaye pas de chercher le succès en parlant tout le temps de toi pour penser que tu vas devenir heureux en faisant ça. Alors, moi, le bonheur, il est pas dans parler de moi. Le bonheur, il est vraiment dans les relations que j'ai avec les gens qui m'entourent et l'état de présence, j'en parle à gauche et à droite depuis des années, que je peux essayer d'entretenir au quotidien, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis.
Vous êtes médecin, vous avez travaillé en santé communautaire, vous êtes médecin du travail aussi. Oui. Est-ce que c'est ça qui vous a amené justement à cette réflexion sur le... C'est quoi véritablement notre vrai essence? Puis pourquoi qu'on se fait souffrance? Vous dites ça dans votre livre, dans Pensouillard. Vous dites, dans le fond, là, c'est de la souffrance qu'on génère notre propre souffrance.
Tellement inutilement. J'avais pas le choix. Fallait que. Parce que c'est ce qui m'intéresse depuis que j'ai envie de dire 14 ans. Tiens, je vais en parler un peu de moi.
Oui, oui. Pourquoi vous en êtes arrivé là?
À l'adolescence, déjà, je me suis intéressé à la souffrance humaine puis à ce qui pouvait le soulager. Je sais pas pourquoi, il y avait des amis autour de moi qui se confiaient à moi. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, dans une gang à qui on se confie. Faut dire que j'avais l'air d'avoir 10 ans, donc j'étais peut-être pas intéressant autrement que par mes grandes oreilles qui pouvaient écouter des personnes. Donc, qu'est-ce qu'on entend quand on déploie ses oreilles? Bon, on entend la souffrance des gens qui nous entourent. Puis on commence à se poser des questions. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est ça? D'où ça vient? Et puis on se demande surtout, est-ce qu'on peut la soulager? Est-ce qu'on peut l'apaiser? Est-ce qu'on peut aider des gens à réduire cette espèce d'état d'inconfort qui fait qu'on passe à côté de notre vie ou encore de l'écouter pour qu'on apprenne à mieux profiter de notre vie? Fait que très tôt, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis moi, au fond, ce que je voulais faire dans la vie, je voulais écrire. Peindre. Oui.
Peindre aussi.
Oui. Puis je peignais beaucoup. J'écrivais déjà énormément pendant tous les cours que je suivais. Là, mes notes étaient remplies de toutes sortes de choses. Mais quand j'ai dit ça à mes parents, comme bien du monde, à l'époque, c'était pas très populaire. Ils avaient tiré le diable par la queue. Puis ils disaient, écoute, tu gagneras pas tes vies avec ça. Tu feras ça comme hobby. Alors, finalement, je me suis dit, OK, je vais combiner deux affaires. Je m'intéresse à la souffrance humaine. Je vais essayer de découvrir comment on peut l'apaiser, la soulager. Et quelle belle façon de nourrir l'écriture. Quelle belle façon de nourrir la création. Autrement dit, ce que je vais apprendre, je vais essayer de faire en sorte que ça puisse être partagé davantage à bien des niveaux. Fait que je suis allé en médecine. Et là, j'ai encore appris un tas d'affaires. J'ai eu la chance d'avoir un prof. Puis ça, je trouve ça bien important. Parce que dans nos vies, il y a des rencontres qu'on fait qui changent nos vies. Et je suis pas sûr qu'on les apprécie assez sur le coup, mais on peut les apprécier plus tard. Puis parfois, quand on a la chance, il faut exprimer notre reconnaissance quand c'est possible. En tout cas, j'ai rencontré un prof qui nous avait montré aux étudiants en médecine un graphique pour montrer l'évolution de la tuberculose à l'époque. Puis il montrait que la tuberculose, là, ça avait commencé à diminuer bien avant qu'on découvre les médicaments, puis bien avant qu'on découvre les vaccins. Ah. Alors, au fond, quand les médicaments sont arrivés, puis les vaccins, là, c'était vraiment très, très bas, les taux de tuberculose. Et c'est les conditions de vie qui s'étaient améliorées qui avaient fait diminuer la tuberculose. Là, je me suis commencé à me poser des questions par rapport aux problèmes de santé psychologique. Mmh. Je me disais, on peut-tu travailler en amont? On peut-tu faire en sorte qu'on puisse éviter que ça apparaisse, cette souffrance dont on parle depuis tout à l'heure? Et c'est pour ça que je me suis intéressé, entre autres, à la santé au travail. Parce que je me disais, c'est des lieux, quatre murs, un plancher, un plafond, où on rencontre du monde. On peut essayer de voir ensemble comment faire en sorte que ça qu'on améliore leurs conditions dans l'espace de travail puis que leur souffrance s'apaise. Et là, j'ai commencé à me demander comment ça se fait qu'il y a des gens qui souffrent au travail.
Il y a beaucoup de gens qui souffrent, Dr Marquis.
Aïe, 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 aïe. Et j'ai commencé à en soigner, je les ai écoutés. Et puis j'ai découvert que ça a trait à une question de sens. Qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent un métier, ils ont la flamme allumée, sont passionnés, ils veulent participer au bien, contribuer au bien commun. Ils veulent, dans le monde de la santé, là, entendons-nous, ils veulent, dans le monde de l'éducation aussi, ils veulent faire en sorte que y a des messages qui passent, mais dans le monde de la santé, c'est apaiser la souffrance humaine. Et puis, arrive un moment où il y a tellement de choses à faire, dans des rythmes tellement serrés, qu'ils ont l'impression de ne plus être capables d'apaiser vraiment cette souffrance-là. Moi, j'ai été beaucoup aidé aussi. Ça, j'en ai pas énormément parlé. J'ai été malade, moi-même, à quelques reprises. Et très, très malade. J'ai failli mourir une couple de fois. J'ai été hospitalisé pour une hémorragie digestive massive. C'était en 1984. Puis une des personnes qui m'a le plus aidé, là, c'est une personne qui m'a tenu la main pendant quelques minutes puis qui m'a dit, vous allez arrêter de regarder le tube que vous avez dans le nez, là, où il passe du sang. Je vais m'en occuper, moi, du tube, parce que j'avais un tube dans le nez pour vider l'hémorragie. Je vais m'en occuper, moi, du tube. Et puis, elle s'est mise à me parler de sa famille, un fils de mon âge. Et la relation que j'avais avec elle, là, m'apaisait. Et là, je me suis dit, ça, là, c'est des soins. Mm. Et ces soins-là, là, sont liés au sens qu'une personne peut donner à sa vie. C'est ce qui m'a beaucoup influencé dans les choix que j'ai faits. Moi, je me suis dit un jour, si je peux me sentir connecté, je vais avoir un sens à ma vie. Si je peux aider les gens à apaiser leur souffrance, je vais avoir un sens à ma vie. Mais c'est pas toujours en apaisant la souffrance des autres qu'on trouve un sens à sa vie. On peut trouver un sens à sa vie en contribuant au bien commun, tout simplement. En se sentant utile quelque part dans ce qu'on fait. Et ça était une, j'ai envie de dire un mot anglais qui me vient à l'esprit, malheureusement, c'était une drive très forte.
Mm-hmm. Un moteur.
Un moteur très fort dans ce que j'ai fait.
Puis vous dites donc, les gens que vous avez soignés au travail et que vous continuez de soigner au travail, est-ce que c'est cette notion de sens qu'ils n'ont pas ou qu'ils ont perdu, qui manque?
Oui, oui, complètement.
Cette notion de ne pas être utile assez, de ne pas être... Parce qu'on sait que le premier critère d'importance pour les travailleurs, c'est pas l'argent, c'est la reconnaissance. Ouais, le fait de ne pas être reconnu. Et là-dedans, il y a quelque chose aussi comme de la gratitude qu'on attend mais qui ne nous vient pas. Il y a tout ça aussi.
Et c'est important, cette question-là. Moi, dans les milieux de travail, quand je rencontre des personnes qui peuvent avoir une influence sur la santé mentale, je leur dis toujours, pensez à la reconnaissance. Puis en même temps, quand je rencontre des travailleurs, je me dis, qu'est-ce que vous cherchez à travers la reconnaissance? Parce que ça aussi, c'est important.
Là, c'est l'ego là, qui ressort aussi. Là.
Ça me fascine parce que...
Mais c'est normal qu'on se sente comme ça, vous diriez?
Qu'est-ce qui fait qu'on cherche... Puis ça, c'est une question... C'est peut-être des raisons pour lesquelles je parle peu de moi. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on cherche tant à être quelqu'un dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'on cherche la célébrité, etc., à travers la reconnaissance et le regard de l'autre tout le temps? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que si on n'a pas ça, on n'existe pas? Ça remonte à très loin dans notre enfance. Hein? Je donne toujours l'exemple, on est au pied de l'arbre de Noël, on a 4-5 ans, là, puis on a appris une petite comptine, un petit poème à l'école, puis on récite ça, puis là, on a fini. Ça fait 4 lignes, hein? Puis devant nous, il y a les mononcles et ma tante.
Tout le monde applaudit.
Tout le monde applaudit. Puis là, il y a quelqu'un de bien intentionné qui dit, là, et que t'es bon. Tu t'es pas trompé. Là, dans ma tête, là, je commence à penser que pour être applaudi, donc aimé, apprécié, il faut que je sois bon, puis il ne faut plus que je me trompe. Hein? Et ça, là, ça commence à m'influencer dans les choix que je fais, dans les attitudes que j'ai au quotidien. Toujours vouloir être parfait, parfaite.
Mais donc, vous, là, Vous l'avez senti, ça? Vous l'avez vécu, ça?
Tellement.
Le fait d'écrire des livres, Pensouillard, le hamster, là, qui vient d'être traduit en chinois, là, dans 10 langues, en plus, à part le chinois.
Ouais.
C'est un succès incroyable. Vous allez vous donner des conférences. Vous avez fait Egoman aussi il y a 4 ans.
Oui.
Donc, vous êtes connu et reconnu.
Oui.
Donc, il y a cette reconnaissance. Oui. Donc, vous aussi, vous répondez au même code puis vous avez ce même besoin.
Il y a plein de gens qui me disent ça. Ça doit être extraordinaire ce que tu vis. T'sais, il y a des gens qui t'applaudissent quand tu donnes une conférence, qui viennent te dire merci, etc. Je leur dis, quand ça arrive, je l'accueille, je le reçois. Mais la minute où je suis sorti de la salle, là, puis je suis dans mon auto, là. Si je continue à tourner ça dans ma tête, « Hey, je suis bon, t'sais, on m'a applaudi, etc. » Je crée un piège énorme pour moi, parce qu'après, je vais tout le temps le chercher. Puis le jour où ça sera pas là, je vais me sentir comment. Et quand je quitte la salle, là, ce que j'essaie de faire dans mon auto, là, sincèrement, c'est de contempler le paysage, c'est d'écouter la musique qui sort de la radio, c'est ma conjointe qui me parle, ces choses-là que j'essaie de faire.
Vous allez nous dire si c'est ça aussi qui fait que vous êtes allé chez les moines. On revient tout de suite après cette pause avec le docteur Serge Marquis. Je suis en compagnie du docteur Serge Marquis, médecin spécialiste en santé communautaire, médecine du travail. Il a écrit plusieurs livres, dont ce fameux best-seller « Pensouillard, le hamster » qui, en France, est sorti en Europe, entre autres sous le titre « On est foutu, on pense trop ». Il a été traduit en italien, en allemand, en coréen. Là, eh bien, il va sortir... il est sorti récemment en chinois.
Non, il va sortir en Chine au cours de l'année qui vient. C'est assez fascinant.
Bon,
hein?
Oui, c'est fascinant tout ça. Oui. Vous n'aviez pas prévu ça?
Zéro,
Serge.
Isabelle, zéro.
En disant, on a le petit hamster, on a tous un petit hamster qui trotte dans notre tête, dans cette fameuse roue qu'on nourrit à la peur de toutes sortes.
Ouais.
Parlons de la peur.
Oui.
On a parlé de la peur des barricades cette semaine, la peur des armes à feu qui aurait peut-être sur une réserve en banlieue de Montréal. On parle de la peur d'un virus qu'on va peut-être attraper si on voyage.
Ouais.
On dirait qu'on alimente la peur.
Absolument.
Pourquoi?
Ben, la peur, là, c'est l'émotion la plus primitive qui soit dans l'histoire de l'humanité. Hein. Il y en a deux qui ont permis à l'espèce humaine de survivre, la peur puis l'agressivité.
Mmh.
Alors, c'est omniprésent, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est associé à la survie. Donc, c'est une émotion qui a été, ou une réaction qui a été très utile. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on l'entretient, on la génère à l'intérieur de notre tête, on la fabrique, on la fait apparaître, alors qu'elle n'a pas toujours lieu d'être. C'est ça la grosse différence. Quand on était dans la jungle, puis qu'il y avait un fauve là, puis qu'il rugissait là, c'était normal que la peur apparaisse. Mais quand on est assis dans son salon, bien au chaud, en train de regarder une bonne émission de télé, et qu'on pense...
Mais si on regarde Épidémie, on ne s'aide pas, là.
Non, là, ça part. Effectivement. Moi, par rapport au coronavirus, j'aurais le goût de dire un petit mot.
Mais oui, vous êtes spécialiste en santé communautaire.
Ouais,
donc, dites un petit mot là-dessus, docteur Marquis. Rassurez-nous, là.
Ouais, je veux dire que je m'émerveille présentement, étrangement. Là,
vous émerveillez pour vrai?
Devant la mobilisation.
Ah.
Devant la quantité de personnes qui
travaillent. Oui.
Qui travaillent. Ouais. Et présentement, au moment où on se parle, il y a des gens qui suent sang et eau là, partout là, pour trouver des vaccins, pour trouver des médicaments, pour essayer, qui travaillent au bien commun. Ouais. Ça m'émerveille. L'autre chose qui m'émerveille, et c'est un peu bizarre d'associer beau émerveillé à ça, mais c'est qu'on apprend présentement. Ça fait longtemps qu'on sait que des choses comme ça vont arriver. On le sait. Il va en avoir d'autres, d'ailleurs. Mais on apprend à chaque fois parce qu'on a l'intelligence d'apprendre, les êtres humains. Puis ça, c'est extraordinaire. Et l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que ça génère des solidarités.
Mais je vais juste vous là-dessus, là, faire un peu de millage sur le fait d'apprendre. Il y en a qui disent que la connaissance... peut nous amener justement à plus de crainte. Ce qu'on ne sait pas nous fait pas mal, hein? On connaît tous entendu parler de ça. Bien heureux les innocents, parce qu'ils ne savent rien. Mais c'est vrai que le fait de le savoir, ça génère peut-être un peu plus d'anxiété. Vous êtes tout par rapport à ça.
C'est pas tant la connaissance que l'information, je dirais. Il y a une distinction entre les deux.
Oui, oui.
Quand j'ai de la connaissance au sujet d'un... c'est ce qu'on veut approfondir, une connaissance au sujet du virus, plus on va être... on va connaître comment il se comporte, le mieux on va être capable de réagir. Parce que là, on va être dans le rationnel. Là où il y a un problème en rapport à ce qu'on appelle la connaissance, c'est quand on entre dans l'irrationnel.
L'émotivité.
Dans l'émotivité. Et que là, ça sert de moteur à la panique. Et que là, on construit des scénarios, des catastrophes, etc. Là, à ce moment-là, l'information qu'on reçoit, qui n'est pas traitée de façon rationnelle, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux me protéger, bon, etc., là, génère une peur qui, elle, va générer une certaine forme de souffrance par anticipation uniquement. Alors, c'est là qu'il faut s'entraider quelque part, à apaiser justement notre hamster, parce que même pendant ces périodes-là, l'hamster court à toute vitesse, à l'apaiser. Il y a une question qui m'aide beaucoup, là, moi, c'est est-ce que j'ai un problème en ce moment? Puis comment je peux faire pour arrêter l'anxiété ou apaiser l'anxiété?
En avez-vous un?
En ce moment, j'en ai pas.
Vous n'avez pas de problème dans votre vie en ce moment?
Ah oui, j'en ai. Il y a des
petits problèmes.
Des choses que je règle.
Ah oui?
C'est ça l'affaire. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui apparaît, au lieu de mettre mon hamster dans le mode « Ah, oh, c'est effrayant ce qui m'arrive, qu'est-ce que je vais faire, la vie est épouvantable, catastrophique », je mets mon attention sur « OK, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Quelles sont les solutions possibles? » Il y a des gens, j'entendais ça tout à l'heure à l'émission sur le coronavirus, qui disaient, ben moi, je décide de pas voyager. Mm-hmm. Bon, ben c'est une façon qu'ils ont trouvé d'apaiser leur hamster. Mais il y a aussi un regard global qu'on doit porter sur ce qu'on est en train de devenir comme espèce humaine. Là. Ouais. Il y a des choses qui font en sorte qu'on contribue au bien-être de d'autres communauté en voyageant.
Ouais. Mais comment arriver à gérer tout ça, son ego, son hamster, son anxiété, sa peur, sans pour autant virer moine? Ben, vous êtes allé en voir des moines, puis ça me fait toujours... C'est toujours la question que je pose à un moine quand j'en vois un, parce que les moines, ils se sont isolés, ils ont décidé de s'isoler dans un monastère, puis de prier toute la journée, ou en tout cas de méditer toute la journée pour être capable de gérer ça. Puis même dans votre livre, vous dites qu'eux-mêmes vous ont dit que des fois, ça ne marchait pas, il fallait vraiment... Ouais. Donc, comment imaginer nous, là, simples mortels... Comment on peut y arriver? Là?
C'est fascinant parce qu'il y a des tensions dans les monastères. Il y a des conflits dans les monastères. Les monastères sont un produit.
Un microcosme aussi.
Un microcosme de la société dans laquelle on vit. Il y a de la jalousie dans les monastères.
La hiérarchie.
Il y a du pouvoir dans les monastères. Il y a tout ça. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est d'apprendre à gérer ça. Pas se cacher Ça, c'est une erreur qu'on a tendance à faire. Pas se cacher la vérité. Pas mettre des lunettes roses. Je porte pas des lunettes roses, moi.
Qu'est-ce que vous retenez surtout de ces Vous êtes allé combien de fois chez les moines?
Je suis allé une fois.
Ouais.
Ben, j'ai passé quelques semaines là-bas. Tous les matins, j'allais avec eux voir comment ils commençaient la journée, bon, etc. En fait, ce qu'ils font, c'est s'entraîner. C'est le mot important. S'entraîner. Entraîner leur esprit. Essayer d'observer quand est-ce que ça apparaît la peur, quand est-ce que ça apparaît l'anticipation, puis essayer à ce moment-là de ramener l'attention sur quelque chose de concret, s'entraîner psychiquement comme on s'entraîne physiquement. Il y a plein de monde qui s'entraîne physiquement actuellement. Pourquoi on ne mettrait pas autant d'accent sur l'entraînement psychique?
C'est vrai.
Et c'est aussi important d'entraîner ce qu'on a au-dessus des épaules que d'entraîner ce qu'on a en bas des épaules, c'est fondamental.
C'est vrai.
Puis c'est ça dont j'essaie de parler de plus en plus autour de moi, puis de donner des outils par rapport à ça, pour qu'on puisse arriver à maîtriser davantage son esprit,
exact.
On peut appeler ça comme ça. Là.
À se reposer un peu mentalement.
Ouais, à avoir une certaine tranquillité.
Oh, c'est une belle conclusion à cette semaine mouvementée qu'on a eue, Dr Marquis. Vous pourrez venir n'importe quand. Vous avez officiellement une carte chouchou de cette émission.
Merci, Isabelle.
Merci à vous. Allez lire ça, Pensuyard le hamster, petit traité de décroissance personnelle, si vous ne l'avez pas déjà lu. Merci à mon équipe, Sébastien Lapierre, Normand Jem, Isabelle Laure à la recherche. Et à lundi, tout le monde, reposez-vous ce week-end.